Vous écoutez Europe 1, il est très largement 19h. Voici un nouveau journal, il vous est présenté par Wilfried De Villers. Bonsoir Wilfried.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
La Corse frappée par de violents orages ce matin.
La sidération, le choc des habitants, l'épisode a fait au moins 5 morts, dossier complet dans un instant. Les producteurs laitiers en colère, ils réclament une meilleure rémunération et veulent une hausse des prix du lait en supermarché. Une dizaine d'entre eux ont d'ailleurs bloqué un supermarché dans le Nord, reportage à suivre. Accord sur les céréales ukrainiennes, discussion avec Vladimir Poutine, rencontre avec Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, le président turc Recep Tayyip Erdogan, sur tous les fronts diplomatiques, il joue un rôle de médiateur dans le conflit ukrainien. Et puis Airbnb ne veut plus de fêtards dans ses locations, terminer les grosses soirées. La plateforme a même mis sur pied un algorithme pour repérer d'éventuelles fêtes illégales.
Anthony Kazmarek, la tendance météo.
Et prudence encore en Corse, puisque de nouveaux orages localement violents sont attendus jusqu'à demain, 10h voire midi. Partout ailleurs, beaucoup de nuages et des pluies aussi soutenues entre la Franche-Comté et Rhône-Alpes. D'autres arriveront par le nord-ouest dans l'après-midi. Les températures seront stables comparées à aujourd'hui.
Météo complète à la fin du journal.
Le choc donc en Corse après les violents orages de la matinée.
Des vents, des pluies diluviennes se sont abattus sur l'île. Un épisode bref mais très intense et le bilan est lourd. Au moins 5 morts, des dizaines de blessés. Bonsoir William Molinier.
Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct sur la route entre Ajaccio et Sagone. C'est ici que la tempête a soufflé le plus fort.
Oui, des vents mesurés jusqu'à 220 km/h tout le long de cette route qui suit la côte. On y voit des arbres couchés, des troncs arrachés. La tempête s'est engouffrée ce matin par le littoral. Et sur cette plage de la Licia où je me trouve, il ne reste plus qu'un seul terrain de tennis utilisable. Les trois autres ont vu leurs barrières s'envoler, les filets sont par terre. La tempête a duré 15 minutes à peine, mais elle a été d'une violence inouïe, du jamais vu, ici m'a confié un restaurateur. Et ce soir, le contraste est saisissant. Grand ciel bleu, pas un seul nuage dans le ciel, une brume de chaleur s'est formée à l'horizon sur la mer et les vacanciers profitent de ces quelques heures d'accalmie sur la plage car c'est un calme tout relatif. Météo France a à nouveau placé la Corse en vigilance orange. Un nouvel épisode orageux est attendu ce soir. Nouvelle nuit de galère en perspective pour les vacanciers puisque la préfecture de Corse du Sud a demandé l'évacuation, je cite, sans délai des campings dans le département en prévision des orages donc attendus ici dès ce soir.
William Molinier en direct de Corse du Sud et on apprend à l'instant que le bilan s'est encore alourdi, 6 morts désormais. D'importants moyens sont aussi déployés en ce moment pour retrouver, pour secourir de nombreux navigateurs au large de la Corse. 5 hélicoptères, la sécurité civile, la gendarmerie, même des bateaux privés ont été réquisitionnés. Le CROSS, le centre régional de surveillance et de sauvetage, a reçu 125 appels pour des demandes de sauvetage en mer. Les précisions de Pierre-Louis Josselin, c'est le porte-parole du préfet maritime de la Méditerranée.
La plupart des opérations, c'est des navires en difficulté, soit parce qu'ils étaient en mer, qu'ils ont été surpris par la météo, qu'ils ont eu de la casse, qu'ils ont perdu leur mât, ils ont une voie d'eau, etc. Ou alors c'est des navires qui étaient au mouillage et qui, compte tenu de la situation de météo, se sont fait projeter à la côte ou sont venus s'échouer sur des rochers. Là, pour l'heure, le bilan, c'était de 10 blessés légers dans la matinée et puis 2 personnes disparues en mer, un pêcheur de 62 ans et une kayakiste à l'est de la Corse. Alors, le corps de la kayakiste a été retrouvé dans le secteur d'Arbalonga et un corps a été repêché en fin de matinée dans le golfe de Girolata, donc il est encore en cours d'identification, mais il est fort probable que ce soit le pêcheur qui a été reporté disparu à cet endroit-là. On appelle ce soir toute la population qui pourrait se trouver en Corse à ne pas prendre la mer, si c'était leur intention, compte tenu de la dégradation météorologique qui est annoncée ce soir. Et pour éviter tout nouvel incident, donc j'appelle tous les plaisanciers et les usagers de la mer à rester chez eux en attendant que la situation météorologique s'améliore.
Pierre-Louis Josselin, porte-parole du préfet maritime de la Méditerranée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est arrivé en Corse. Il s'exprime en ce moment depuis Sagone où 2 personnes sont mortes ce matin. Le ministre de l'Intérieur a apporté son soutien aux sinistrés. Le président Emmanuel Macron, lui, va présider tout à l'heure la cellule interministérielle de crise depuis le fort de Brégançon. Une réunion en présence de la première ministre Elisabeth Borne. Et on le disait, c'est un phénomène d'une rare violence qui a frappé la Corse ce matin. Des rafales jusqu'à 224 km/h. Un épisode particulièrement intense, mais de courte durée. Bonsoir Anthony Kazmarek.
Bonsoir Wilfried.
Vous êtes journaliste météo pour Europe 1. Comment expliquer un tel phénomène et surtout, était-il vraiment prévisible ?
Alors, ce qui s'est passé en Corse ce matin, c'est le passage d'un énorme paquet d'orages qui s'est créé dans un environnement très instable entre l'air plus frais qui a gagné une bonne partie de la France et de l'air extrêmement chaud qui remontait encore de Méditerranée. On a relevé hier 36 degrés à Ajaccio. Le problème, c'est que ces orages ont survolé une mer exceptionnellement chaude pour la saison à 28 degrés. Et plus l'eau est chaude, plus la vapeur d'eau qui s'en échappe se charge en humidité et agit comme carburant pour les nuages et pour les orages. Et cela explique donc la violence du phénomène. Maintenant, pouvait-on le prévoir ? Alors là, il faut plonger dans les supercalculateurs de Météo France. Ce sont d'énormes ordinateurs qui, plusieurs fois par jour, moulinent des milliards et des milliards d'équations à la minute. Et ce matin, à 6h, lorsque les logiciels ont rendu leur copie, rien ne laissait présager une telle catastrophe et rien ne justifiait un passage en vigilance orange ou même en rouge, selon Philippe Arbogast, chef prévisionniste à Météo France.
Les vigilances rouges orages sont extrêmement rares. Il aurait fallu, donc, typiquement, 6h du matin, émettre ces vigilances rouges. Mais le système orageux était plus présent dans les systèmes de prévision numérique. Nous n'avions pas d'éléments rationnels pour faire ce genre d'alerte.
L'orage aurait dû en fait passer en mer, frôler à la limite le littoral corse. Et c'est seulement en observant l'orage arriver que Météo France a compris qu'il allait traverser toute l'île, d'où une vigilance tardive à 8h29. Le logiciel a donc été battu et cela montre une fois de plus que la météo n'est toujours pas une science exacte.
Merci Anthony Kazmarek, journaliste météo pour Europe 1. Ce phénomène météo extrême, nous en parlons plus en détail vers 19h15 avec le météorologue Frédéric Decker. C'est notre invité dans Europe Soir. Et puis cet épisode orageux n'a pas touché que la France, il a également frappé la Toscane en Italie.
Il y a 2 personnes ont été tuées victimes de chutes d'arbres, 18 autres blessées dans la région italienne. La tempête a également emporté de nombreuses toitures, une centaine de personnes ont dû être évacués en urgence. Et puis, des incendies au Portugal et en Espagne. Côté portugais, les feux de la Serra de Estrela sont désormais maîtrisés après avoir tout de même parcouru quelques 25 000 hectares en une dizaine de jours. En Espagne, l'arrivée de la pluie a considérablement ralenti la progression de 2 incendies. Ils sont toujours en cours dans la région de Valence.
Un bus bondé, cerné par les flammes, des habitants fuyant leurs habitations dans la ville de Sucaras.
Scène de désolation dans le nord de l'Algérie où de violents incendies ont fait plus d'une trentaine de morts ces derniers jours. La correspondance de Nour Chahine.
Plus de 118 foyers d'incendie sont encore actifs dans l'est de l'Algérie. Le bilan de ces feux de forêt s'alourdit heure après heure. Jusqu'à maintenant, 37 personnes sont mortes. Les moyens mobilisés par les autorités algériennes pour éteindre ces incendies sont importants. Plus de 1700 pompiers et près de 300 véhicules sont déployés sur le terrain. Selon le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, la tâche des éléments de la protection civile s'avère difficile, notamment à cause des vents forts qui soufflent sur l'est du pays.
Il y a des facteurs qui ont encouragé la propagation de ces incendies, particulièrement la vitesse du vent qui a dépassé les 91 km/h. Et bien sûr cela, aux côtés de la nature et du tapis végétal et forestier, qui ont agi comme des accélérateurs.
La région la plus endeuillée par ces incendies demeure la wilaya d'El Taraf, à la frontière algéro-tunisienne. En tout, 21 wilayas ou départements algériens sont touchés par cette catastrophe, dont l'origine reste à déterminer.
Notre correspondant en Algérie, Nour Chahine.
La sécheresse en France et ses conséquences, la production laitière est touchée par les très faibles précipitations. Et
depuis des semaines, les vaches se nourrissent moins à cause des stocks de fourrage qui baissent. De quoi laisser présager une future pénurie de lait. Et cette baisse de rendement pèse aussi sur les producteurs déjà étouffés par des coûts de production très élevés. À Bailleul dans le Nord, ils ont manifesté aujourd'hui devant un supermarché. Ils dénoncent les prix de vente du lait jugés trop faibles. Le reportage de Maximilien Carlier.
Une dizaine de tracteurs bloquent l'accès au parking de ce supermarché. Sur les engins agricoles, plusieurs messages, motivés mais pas payés, on en a plein les bottes, plus un rond, filière lait en danger. Jean-Paul est éleveur à Onscott dans les Flandres.
C'est une grosse action, c'est voulu, c'est parce que les prix français ne sont pas alignés sur les prix allemands et belges, donc c'est pas normal.
Car dans cette grande surface, par exemple, la brique de lait est vendue 79 centimes. Ces agriculteurs réclament un prix plancher, 99 centimes, tout simplement pour vivre, explique-t-il, étant donné la hausse du coût de production.
Toutes nos charges ont fortement augmenté, le GNR, c'est le fuel pour faire tourner le tracteur, l'électricité qui a fortement augmenté, l'eau. En plus, on est dans une sécheresse inouïe, la facture d'eau, elle va être salée.
Conséquence, certains envisagent d'arrêter la production laitière. Il y a une détresse chez ces éleveurs qui réclament une juste rémunération. Guillaume Klenowerk, membre de la section laitière du Nord de la FDSEA, principal syndicat agricole.
Là où nous on demande 99 centimes du litre de lait, ça représente grosso modo pour un panier moyen 40 euros par an d'effort. Est-ce que le consommateur accepterait de payer un petit peu plus le prix au litre de lait pour sauver une filière, ou est-ce qu'on continue comme ça et qu'on détruit la filière en place ?
L'autosuffisance alimentaire n'est plus un mythe, insiste cet éleveur. Si on nous empêche de travailler, on va faire rentrer du lait de l'étranger, plus cher et pas forcément aux mêmes normes environnementales. Bayeul, Maximilien Carlier, Europe 1.
Eux font grève pour protester contre l'inflation record. Les Britanniques connaissent une poussée inflationniste de 10% sur un an. Des milliers d'employés du rail ont débrayé aujourd'hui. Des dockers, des postiers, mais aussi des avocats et des éboueurs menacent eux aussi d'arrêter le travail en signe de protestation. C'est le plus important mouvement de grève en Angleterre depuis la fin des années 80.
À l'étranger, toujours, le président turc est le patron des Nations Unies en déplacement dans l'ouest de l'Ukraine.
Recep Tayyip Erdogan et Antonio Guterres ont rencontré Volodymyr Zelensky tout à l'heure à Lviv. Au cœur des discussions, une sortie du conflit, la situation autour de la centrale de Zaporijjia et la question des exportations céréalières ukrainiennes. Un accord sur les céréales où Ankara joue le rôle de médiateur. Plus généralement, la Turquie est l'un des seuls pays à parler autant aux Ukrainiens qu'aux Russes. Elle joue un rôle diplomatique clé dans le conflit, c'est ce que nous explique le géopolitologue Alexandre Delval.
La Turquie arme les Ukrainiens, mais elle ne veut pas mélanger la morale et la politique. Et elle dit à la Russie, bon, nous on soutient votre ennemi, c'est de bonne guerre, mais pour le reste, on pourrait être très utile et on est à votre disposition. Et on ne veut pas rompre l'alliance économique avec ce pays. Juste après la Chine, c'est la Turquie d'Erdogan qui est le grand gagnant, puisqu'il était totalement banni moralement, médiatiquement, politiquement. Il était extrêmement mal vu. Maintenant, tout le monde est obligé de passer par lui, parce que malgré tout ce qui se passe, eh bien, en privé, Macron le premier, qui est un homme assez réaliste, mais d'autres dirigeants européens un peu plus hypocrites, ont besoin de canaux de conversation et de dialogue, et il est pratiquement le seul.
Le géopolitologue Alexandre Delval, il était notre invité tout à l'heure dans Europe Soir, entretien à réécouter dans son intégralité sur notre site europe1.fr. La suite du procès de Benjamin Mendy face à la justice britannique, Wilfried.
Une deuxième victime, s'est exprimée aujourd'hui. Elle accuse Benjamin Mendy de 3 viols qui remontent à octobre 2020. Laure Van Ruinbeck, la jeune femme, s'exprimait dans une vidéo préenregistrée.
Oui, cette deuxième victime se tient sur un canapé gris. On discerne très clairement ses traits fins, ses cheveux bruns, son chignon sur la tête. Elle est habillée tout en noir avec un bas de chemisier blanc. Elle s'exprime avec des gestes, dévoilant de longs ongles au vernis blanc. Sa voix est forte, elle semble à l'aise malgré la gravité d'un récit rapporté au détail près. Elle n'hésite pas à se lever pour montrer comment Benjamin Mendy serait parvenu à la violer à 3 reprises. Et puis, lorsqu'elle raconte comment elle a parlé à ses proches de ce qui lui est arrivé, son ton change alors, elle prend de longues respirations, elle s'arrête, elle pleure. Puis vient son contre-interrogatoire mené par la défense. La victime est cette fois-ci présente dans la salle d'audience. Elle est cachée derrière de lourds rideaux pourpres. Elle ne souhaite pas voir son agresseur. Benjamin Mendy, lui, a l'air abattu. Concentré au début de l'audience, il a désormais les yeux dans le vide, tourné vers ce lourd rideau, écoutant cette voix tremblante qui répond aux questions de l'avocate du footballeur. Celle-ci tente de la mettre face à ses contradictions. Pourquoi a-t-elle écrit le lendemain à une amie qu'elle n'avait pas couché avec le joueur ? « Je n'ai pas couché avec lui », répond-elle, « car je n'y ai pas consenti ».
Laure Van Ruinbeck, notre correspondante au Royaume-Uni.
Quand Airbnb part à la chasse aux fêtes clandestines.
Depuis le mois de juin, elles sont même interdites dans les locations proposées par la plateforme à cause des trop grandes détériorations et du tapage généré par ces fêtes. Airbnb a même mis sur pied un nouveau système pour repérer les potentiels fêtards, Margot Fodéré.
Airbnb teste un algorithme pour détecter les utilisateurs susceptibles d'organiser des fêtes clandestines. Plusieurs indicateurs permettent de l'anticiper, notamment la distance de la location par rapport au domicile de celui qui réserve, la durée du séjour, mais aussi le jour de la location. Typiquement, une réservation effectuée pour une seule soirée, le vendredi soir à 30 minutes du domicile, pourrait alerter la plateforme. Un soulagement pour Nathalie, cette hôte met en location 2 studios à Saint-Tropez et constate régulièrement des débordements dans sa résidence.
Il y a beaucoup de qui amène 7-8 personnes avec des sacs de couchage, qui ne respectent aucune loi dans la résidence. On a eu des gens qui vomissaient par les fenêtres, les balcons. Si les sites comme Airbnb renforcent leurs mesures de sécurité envers les voyageurs, je trouve ça très très bien, parce que si ça continue, ça va devenir vraiment un gros problème pour qu'on puisse louer en Airbnb.
Le système, déjà testé en Australie, a permis de réduire de 35% les incidents liés à des fêtes depuis octobre dernier.
Margot Fodéré du service économie d'Europe 1.
Et avant de refermer ce journal, on vous rappelle la principale information, ce bilan de la tempête en Corse qui s'alourdit. On en est à 6 morts, plus de 20 blessés. Nous allons en parler avec notre invité dans quelques instants, le prévisionniste et météorologiste à Météo News, Frédéric Decker. Merci Wilfried de Villers, la météo. Allez, la Corse toujours sous vigilance et ça va durer jusqu'à demain midi, Anthony. Hein.
Exactement, avec encore des pluies et des averses orageuses fréquentes et parfois fortes, avec d'importants cumuls de pluie, une forte activité électrique et des rafales de vent qui seront fortes aussi, mais sans doute un peu moins que ce matin, entre 80 et 100 km/h, donc jusqu'à demain en fin de matinée, prudence. On aura aussi de forts cumuls de pluie demain, une bonne partie de la journée, entre la Franche-Comté et Rhône-Alpes, et notamment vers le Jura, les Préalpes et le Vercors. Une autre perturbation arrive par le Nord-Ouest, elle donnera aussi des pluies dans le courant de la journée entre les terres bretonnes, normandes, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, des pluies qui seront localement orageuses. Et entre ces deux zones, entre le sud-ouest, le centre et le nord-est, sans doute une poche avec un peu plus d'éclaircies, en tout cas on l'espère. Du soleil en revanche sur le reste du pourtour méditerranéen grâce au Mistral et à la Tramontane qui vont souffler assez fort jusqu'à 80 km/h en rafale. Et puis pour terminer, les températures, elles seront comparables à celles d'aujourd'hui. On partira de 20 degrés à Cherbourg pour aller jusqu'à 31 degrés à Nîmes. Vous aurez 28 à Strasbourg et à Toulouse, 27 à Lyon, 25 à Paris et 24 pour Lille.
Merci Anthony Kazmarek. Il y a un météorologue qui sera avec nous dans quelques instants. Restez avec nous, on aura également besoin de vos lumières. C'est dans quelques instants sur Europe 1. A tout de suite.